On vous en a déjà parlé vendredi dernier dans l'inattendu. En ce moment se déroule le cycle Verdoyon à Rennes 2. De nombreux événements autour de l'écologie et de l'environnement prennent place sur le campus. Et la semaine dernière, on recevait à cette occasion Johan Oswald, professeur de géographie à Rennes 2 et chercheur spécialisé dans les fronts de déforestation. Et aujourd'hui, on poursuit sur cette thématique avec Jeanne. Bonsoir.
Bonsoir Bleuhaine. Alors souvenez-vous, vendredi, on avait parlé avec Johan Oswald du film documentaire « Frères des arbres, l'appel d'un chef papou » réalisé par Marc Dozier et Luc Maresco. Ce documentaire, distingué en 2018 du prix du public du Festival international du film océanien, est projeté au Tambour à 20h ce soir. Et Luc Maresco nous fait l'honneur de sa visite en studio. Bonjour à vous.
Bonsoir.
Luc Maresco, vous êtes réalisateur, chef opérateur et scénariste. Vous voyagez depuis plus de 30 ans, la caméra sur l'épaule, dans les coins de nature les plus reculés de la planète. Après avoir fait un tour du monde au cours duquel vous avez produit de nombreux reportages, vous avez longtemps travaillé en tant que réalisateur dans l'émission Ushuaïa de Nicolas Hulot. À ce jour, vous avez réalisé plus d'une dizaine de documentaires en faveur notamment de la protection de l'environnement et des forêts primaires. Frères des arbres, l'appel d'un chef papou, nous alerte sur la déforestation justement d'une forêt primaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Qu'est-ce que ces forêts primaires ont de particulier? Et en quoi c'est important de les protéger, selon vous?
Alors, c'est important de les protéger parce qu'elles font partie des éléments de l'écosystème nature qui fait qu'on respire. Enfin, il y a une liste impressionnante de pourquoi il est important qu'elles soient là. D'ailleurs, le chef papou qu'on a suivi, c'est un peu son dicton, sa phrase mantra, c'est que si un jour les arbres disparaissent, les hommes disparaîtront aussi. Parce que tout simplement, on a besoin de ce végétal-là. Donc il y a mille raisons pour lesquelles il faut les garder. Et elles contiennent aussi une biodiversité extraordinaire. Dans les canopées, il y a à peu près 80% de la biodiversité mondiale. Et après, il y a le bien-être, parce qu'au-delà des facteurs importants pour vivre, il y a aussi la beauté. Et moi, je trouve qu'on oublie trop dans nos calculs politiques, économiques et autres, la beauté des choses. Et se promener dans une forêt tropicale, c'est juste merveilleux. Alors, pas forcément s'y promener en tant que piéton, parce qu'en fait, quand on se balade en tant que piéton dans une forêt, on se balade dans le mouroir de la forêt. Donc c'est en général sombre, il y a 1% de la lumière du soleil qui arrive en bas d'une forêt tropicale. Mais s'y balader dans les cimes, dans la canopée, là on découvre un univers plein de lumière, plein de couleurs, plein d'animaux. Et j'ai eu la chance au travers de mes différents voyages de pouvoir accéder à cette canopée-là, d'y dormir.
Comment dans ces cas-là vous montez ou...
Alors j'ai fait partie notamment d'une expédition qui s'appelait le Radeau des Cimes, qui était organisée par le botaniste Francis Allais. Et donc c'était un énorme dirigeable qui transportait un énorme radeau fait de filets et de boudins qui faisait plus de 500 mètres carrés. Et donc le dirigeable se baladait au-dessus de la forêt et les scientifiques décidaient, tiens, on va le poser là. Et donc ce radeau se posait sur plusieurs arbres à la fois. Et du coup, les scientifiques, on avait une tente sur ce radeau et on vivait sur ce radeau-là quelques jours, le temps de collecter les bonnes feuilles et autres. Ce qu'on peut difficilement faire quand on est un piéton et qu'il faut envoyer une corde, monter et ainsi de suite. Voilà. Et on passe de très belles nuits là-haut à camper sur la canopée des arbres. Et je me rappelle des trucs tout bêtes, mais on dort la nuit, on est dans son duvet, on est un peu encordé. Et c'est un truc tout bête, mais faire pipi la nuit quand on est en train de dormir sur la canopée, c'est un moment magique parce que forcément, on se tourne, on fait pipi au travers du filet et on entend pendant 40 mètres toutes les petites feuilles, ça réveille les grenouilles, enfin il y a plein de choses qui se passent, des petits sons qui se réveillent, tout ça, enfin voilà, c'est des petites anecdotes voilà, qui rendent aussi ces moments-là magiques.
Et les forêts primaires, donc c'est des forêts dans lesquelles l'homme n'a jamais pénétré, c'est ça?
Alors voilà, la forêt primaire, c'est normalement aucun impact de l'homme depuis toujours, mais en fait, si on écoute notamment Francis Allais, qui est quand même un botaniste de renommée mondiale, et il dit aujourd'hui il n'y a plus trop de forêts primaires, même celles qu'on pense primaires, si on prend l'activité de l'homme sur des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, en fait il n'y a plus de forêts primaires. Mais elles ont un look, une apparence primaire quand il n'y a pas eu de présence humaine depuis environ 700 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, le botaniste Francis Allais milite pour la création d'une forêt primaire en Europe, parce que la dernière forêt primaire, qui est celle de Pologne, elle est en train d'être coupée pour plein de raisons politiques, de corruption, ainsi de suite. Et du coup, il voudrait recréer une forêt primaire en Europe. Et pour qu'on puisse l'appeler primaire, il faut en fait la laisser vivre toute seule pendant 700 ans. Enfin, 700 ans en climat tropical, parce qu'il n'y a pas de saison, donc du coup la forêt se régénère beaucoup plus vite, et en climat tempéré, qui est le nôtre, ça passe à 1000 ans. Voilà. Donc on commence demain, et puis voilà, tout le monde fait attention, et dans 1000 ans, on aura une forêt primaire en Europe.
Et ça représente quelle échelle au niveau des forêts primaires dans le monde, par rapport aux forêts en général, ça représente quel pourcentage, vous savez à peu près ?
Alors, il y a ici et là des forêts, le pourcentage exact, non, en fait, je suis... pas un homme de chiffres trop, ou alors il faut que j'ai les chiffres sous les yeux parce qu'on mélange, enfin, il y a tellement de chiffres à retenir, mais on va dire que globalement, il y a très peu de forêts primaires dans le monde en général. Il y en a un peu dans l'espace boréal et il y en a surtout sur les trois bassins essentiels, c'est-à-dire Amazonie, Congo-Gabon et Papouasie-Nouvelle-Guinée haute, qui est tout le bassin, enfin toute la partie indonésienne. Voilà. Donc il y a trois. C'est, quand on regarde à l'échelle d'une planète, sincèrement, il n'y a plus grand-chose, quoi. Donc du coup, il faut redoubler d'efforts pour essayer de les protéger.
Frère des arbres, l'appel d'un chef papou, votre film documentaire nous parle justement d'une forêt, mais aussi d'un homme, Mudia Kepanga, qui s'engage à la défendre, qui quitte son village des Hautes-Terres en Papouasie pour assister au colloque de la COP21 et qui va jusqu'à l'UNESCO. Quelle était votre envie de départ quand vous avez commencé ce film avec Marc Dozier, et qu'est-ce que vous cherchiez à montrer exactement ?
Alors déjà, je rectifie, on dit Modige, ça s'écrit Mundia, mais ça se dit Modige, et j'ai jamais compris pourquoi, et il a jamais su nous expliquer Modige, parce que forcément, il n'écrit pas, mais bon voilà, c'est assez pour la petite anecdote, parce qu'on s'est trompé, nous aussi, un paquet de fois. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas nous, Marc et moi, qui avions envie de faire ce film. C'est-à-dire que chaque film a une racine, enfin souvent. Et en fait, là, Marc faisait ses études et apprenait la langue, le pidgin, qui est la langue parlée par les tribus qui habitent en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, il faisait ses études à Port Moresby. Et il aimait la photo et il s'est mis à faire de plus en plus de photos. Aujourd'hui, c'est un photographe connu qui fait de très belles photos. Et en fait, un jour, il tombe, en visitant différentes tribus des montagnes, et il tombe sur Modige. Modige se prend d'affection pour ce gars-là qui s'intéresse à sa culture. Et de fil en aiguille, Marc, apprenant de plus en plus le pidgin, il voyait toujours Modige. Et ça a duré 15 ans. Donc Marc a fait des photos en Papouasie, il y est retourné très régulièrement. Et au bout de 15 ans, Modige lui dit « Mais en fait, toi, tu découvres mon pays, je te fais tout découvrir, mais moi, j'aimerais bien découvrir chez toi. » Du coup, Marc a dit « Bah ok, pas de souci. » Donc il l'a invité, lui a payé son billet d'avion et il l'a emmené en France. Et donc là, le premier voyage était juste un choc parce que il vit dans un village où il n'y avait pas la télé, où il n'y avait pas tous ces moyens de communication visuels. Et puis il y est venu, il y est revenu, il est resté 4, 5, 6 ans. Et au bout d'un moment... il a mis en perspective tout ce qu'il voyait chez nous, en Europe, parce qu'il est aussi allé en Angleterre, avec ce qui se passait chez lui. Et en fait, c'est lui qui a demandé à Marc de dire « Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un film parce que j'ai des choses à dire ?» Et du coup, Marc me connaît bien, il connaît mon travail, il sait que je travaille sur les forêts moi j'ai fait 12 documentaires sur les forêts tropicales, et donc il est lumière. Lui, il connaît très bien la forêt de Papouasie, moi je connais les autres, enfin je les connais, on les connaît jamais bien, hein. Mais je reste modeste par rapport à tout ce qu'il y a à savoir. Mais voilà, et du coup il y a eu cette association-là, on a beaucoup parlé avec Modige, et en fait c'est ce qu'il y avait au fond des tripes de Modige qui a servi à faire le film. Et donc on forcément, en tant que documentariste, on avait une idée de là où on pouvait aller, mais on a beaucoup écouté Modige pour faire le film.
D'ailleurs, il avait des choses à dire, et dont son message fort dans le film, la forêt est menacée et si nous ne faisons rien pour la sauver, c'est toute l'humanité qui disparaîtra. C'est aussi le constat auquel vous êtes arrivé après toutes ces années à parcourir les forêts primaires du monde.
Oui, en fait, déjà, en fait, on est sans arrêt en train de couper les habitats naturels. Et on voit bien, parce que tous les grands animaux disparaissent de plus en plus. Même si ici et là, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il ne faut pas voir tout noir. Il y a des baleines qui reviennent en nombre. Enfin, on peut arriver à ce qu'on ait des bonnes nouvelles, in fine. Mais globalement, les habitats des animaux sauvages se réduisent. Et il est impératif, si on veut effectivement survivre en tant qu'humanité, parce que la planète, on s'en fout la planète en fait, parce qu'elle nous survivra. Et il y a eu des périodes glaciaires où il y avait beaucoup moins de forêts qu'aujourd'hui. Il y a eu des forêts refuges dans des fonds de vallées et tout est reparti de là. Mais ça prend des dizaines de milliers d'années. Donc du coup, c'est à nous, humains, de décider si on veut vivre dans un beau cadre ou pas. Et donc là, ça devient essentiel de préserver les habitats. Et moi, j'ai eu un grand questionnement, il y a peu de temps, parce que en fait, pour faire tous les tournages que je fais avec d'autres, hein, c'est des équipes à chaque fois, mais en fait, les grandes villes, on les voit pas, parce qu'en fait, on arrive avec l'avion et on repart tout de suite en camion, en voiture, en pirogue, voilà, et on est très vite dans un endroit perdu. Et puis dernièrement, j'ai dû aller à Séoul, en Corée du Sud, et j'ai réalisé tout d'un coup ces vagues de générations urbaines qui arrivaient. Et je me suis dit, mon Dieu, le lien avec le sauvage, il est définitivement perdu. C'est-à-dire que je sens bien au travers de plein de choses, il fait peur, on appréhende et ainsi de suite. Et donc je trouve que le challenge est aujourd'hui dans les mains des politiques, des promoteurs et des architectes, entre autres, hein, parce que je ne vais pas tout résumer à ça, mais parce qu'en fait, il faut faire revenir la nature en ville, avant qu'on puisse un jour penser recréer ce lien avec le sauvage. Bien sûr, il y a des gens ici et là qui vont faire des immersions dans la nature sauvage, mais ça reste un épiphénomène par rapport à la globalité. Donc du coup, le gros challenge, messieurs, mesdames les architectes, c'est faites-nous des villes où la nature reprend possession du terrain.
Il y a un moment très émouvant du film où Modigé, Kepanga qui serre dans ses bras son frère Arbre. Mm-hmm. Ce moment, il interroge notamment notre connexion à la nature et à ce grand tout dont nous venons tous. Est-ce que c'est, selon vous, il nous faudrait à tous un frère Arbre, en quelque sorte, pour nous reconnecter et reprendre conscience de l'environnement?
Je pense que c'est essentiel. Et d'ailleurs, dans les choses qui ont déclenché ce film, il y a quelque chose qui m'a énormément touché. Moi, je suis très bon public et j'ai la larme facile. Mais on a montré ce film dans la ville d'Arcachon. Il y avait un amphithéâtre, il y avait 1000 personnes qui étaient dans la salle et tout ça. Le maire a été touché par le discours de Modigé. Modigé était venu. Parce qu'en fait, Modigé vient 2 mois par an pour aller voir surtout les écoles et planter des arbres avec les enfants. Et du coup, depuis ce passage-là, le maire a décidé qu'à chaque naissance dans sa ville, il planterait un arbre, dont l'enfant serait le parrain. Et du coup, ça crée un lien. Et quand l'enfant va grandir, les parents d'abord, mais après l'enfant, bah, il a quand même cet arbre-là dont il est, entre guillemets, responsable. Et plus on créera ce genre de lien, plus forcément on va aller dans le bon sens.
C'est important dans ces cas-là de sensibiliser notamment les jeunes à ça.
Oui, bah c'est vrai que les jeunes ont priorité parce que les vieux cons comme moi, c'est terminé. Mais votre génération, vous, d'étudiants, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui prennent conscience du mouvement qu'il y a à faire. Mais les tout-petits, par exemple, les tout-petits, un truc tout bête, mais il y a la Madeleine de Proust, on est lié à nos odeurs et nos saveurs d'enfance. Et bien, si on commençait à demander aux mamans que la première pâte à tartiner au chocolat, ça ne soit pas du Nutella, qui est fabriqué avec de l'huile de palme. Si on leur demandait ça, je suis sûr que les gamins, en grandissant, ils n'auraient pas ce goût de Nutella dans la bouche et du coup, ils n'auraient pas besoin d'acheter ça. Voilà. Ou alors, il faut que Nutella nous fasse une pâte à tartiner sans huile de palme. Voilà. Après, il y a un autre débat, parce que si on ne fait pas d'huile de palme, il faut faire d'autres huiles. Enfin, voilà. Mais là, je n'ai pas le temps de développer.
Votre film... Oh, pardon, Julien, ouais, une
si,
question.
Moi, je peux poser une question. Je voulais vous demander, justement, quand on voit aujourd'hui, par exemple, l'état de la forêt amazonienne ou des grandes étendues comme ça, est-ce que ce n'est pas un beau discours, mais qui est un peu vain aujourd'hui, malheureusement?
Beau discours, alors...
C'est utopique.
Alors, il y a plein de choses. Hein. Là, ça va être difficile de l'assumer en quelques minutes, mais d'une certaine façon, les forêts tropicales sont en train de se casser la gueule. Et moi, j'ai fait 12 documentaires, j'ai pas l'impression que ça allait stopper les tronçonneuses, d'où ma démarche suivante dont je vous parlerai. Mais par contre, il se passe plein de choses au niveau des forêts tempérées. Je veux dire, par exemple, en France, en Europe, les forêts, il y a plus de forêts aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Donc, parmi les populations qui prennent le problème en compte et qui, du coup, trouvent des solutions, peut-être qu'il y aura moins de forêts tropicales et puis que nous, la forêt primaire que veut recréer Francis Allais, peut-être que dans 1000 ans, elle sera là. Et puis, il n'y aura plus de forêts tropicales telles qu'elles sont aujourd'hui, mais ça sera compensé par d'autres forêts. Donc, c'est des vases communicants. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, il faut persévérer. Et peut-être que celui qui va succéder à Bolsonaro au Brésil, finalement, il sera très vertueux et du coup, il inversera la tendance. On ne peut que essayer d'aller vers l'espoir parce que sinon, on se tire une balle.
Justement, comment une personne comme vous réagit quand on entend Bolsonaro dire que non, ce n'est pas du tout le réchauffement climatique qui cause ces grands incendies, malheureusement. malheureusement l'Amazonie, et ça serait presque limite les ONG qui mettent le feu elles-mêmes. C'est, j'imagine, pour un homme comme vous qui a presque vécu dans les forêts primaires et les forêts, ça doit être difficile de...
Bah, c'est juste que les politiques ne sont pas à l'abri d'un gros mensonge, enfin sont prêts à faire des gros mensonges pour nous faire gober n'importe quoi, parce que nous, via les scientifiques et autres, on a beaucoup de remontées de terrain. Alors oui, il y a beaucoup de feux qui sont liés aux pâturages qui sont déjà défrichés et donc du coup qui font brûler pour régénérer, pour que l'herbe devienne verte et tendre pour les bovins, mais il y a quand même beaucoup. Moi, j'ai regardé pas mal d'images qui sont venues de Greenpeace, des gens qui sont en local pour faire des images, et j'ai regardé ça sur leur site, il y a énormément d'images, et ben c'est concrètement des forêts de bois, c'est pas des pâturages et qui sont brûlés. Donc le Bolsonaro, il essaie juste de faire en sorte qu'il soit réélu la prochaine fois, mais concrètement on sait très bien que les trois quarts de ce qu'il dit correspond pas à la réalité. Et effectivement on est en colère. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ma seule arme, c'est l'image. J'ai fait 12 documentaires. Alors je pense que les documentaires, qui sont souvent vus par des gens déjà convaincus, donc du coup nourrissent une base convaincue en arguments, donc ça c'est bien, mais il faut aller polliniser plus largement. Et du coup mon étape d'aujourd'hui, c'est que je voudrais passer à faire un film de cinéma, parce que le cinéma pollinise plus largement, touche un autre public. Il y a un exemple très concret, c'est Blood Diamond, qui était un film avec Leonardo DiCaprio. Okay. Il y avait plein de documentaires de faits sur le trafic illégal de diamants, mais ça ne faisait pas bouger les lignes. Donc c'était des documentaires argumentés et autres. Blood Diamond sort, ça touche aux émotions, moins 15% du trafic illégal de diamants. Et plein de gens, j'ai entendu, j'achèterai plus le petit diamant sur la mag, ainsi de suite, enfin, ou en tout cas savoir d'où ça vient et autres. Donc ça a un impact. Donc du coup, moi, ma dernière cartouche avant de devenir un éco-guerrier, de prendre les armes et d'aller descendre, tout va, je fais des rêves comme ça quand même, parce que je vois tellement de trucs qui me révoltent que par moments, je fais des rêves où j'ai une grosse cape et je me balade et j'ai une grosse artillerie, je défonce tout. Mais avant de passer à ça, je vais passer à la fiction. Là, je viens de terminer il y a 4 jours un film qui s'appelle Poumon vert et tapis rouge, et qui raconte le cheminement pour faire une fiction qui s'appellerait The Botaniste, et qui est un thriller écologique et qui raconte justement l'histoire d'un botaniste pacifiste qui twiste et qui devient un éco-guerrier machiavélique. Voilà. Mmh. Et donc, en espérant que cette histoire-là touche un public plus large que le public des gens déjà convaincus.
La toute dernière carte, c'est
ouais, voilà, le cinéma. Toute dernière carte avant que je frappe les armes.
Il faut que les gens s'identifient en quelque sorte en fait, à un enjeu pour pouvoir, par les émotions ou pas.
Par les émotions. En fait, on dit souvent, on ne convainc personne avec des arguments. Vous prenez deux personnes qui discutent un soir et qui sont sur leur position, ils ont beau discuter, ils vont se quitter, chacun va rester sur ses positions. Par contre, les deux mêmes personnes, il y en a un qui arrive à faire pleurer l'autre parce qu'il y a une histoire qui la touche et il touche l'autre par l'émotion, chacun va faire un pas vers l'autre. Donc du coup, il faut aller sur le terrain de l'émotion et pas des arguments.
Merci Luc Maresco. Et puis merci également à Joanne Oswald, qui est enseignant-chercheur à Rennes 2, spécialiste des fronts de déforestation, qui m'a fortement aidée pour l'écriture de mes questions. Ne manquez pas la projection ce soir au tambour du film documentaire Frères des arbres, l'appel d'un chef papou, co-réalisé par Luc Maresco et Marc Dosier. Luc Maresco et Joanne Oswald seront d'ailleurs présents pour la projection. C'est à 20h ce soir et c'est gratuit. Alors laissez tomber la soirée pizza jeu vidéo que vous programmiez pour venir vous installer confortablement au tambour et regarder ce beau documentaire. Il est encore temps d'y aller. Mieux vous réserver quand même. Alors vous pouvez trouver le lien sur le site de l'Université Rennes 2 et en podcast de cette émission.